France Culture.
Le journal est signé Olivier Vogel. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Quentin, bonsoir à toutes et à tous. C'est la troisième fois qu'ils se rencontrent. Donald Trump reçoit tout à l'heure Volodymyr Zelensky à la Maison Blanche. Il devrait être question de missiles, des Tomahawks que le président ukrainien aimerait bien pouvoir utiliser pour frapper la Russie en profondeur. Nous rejoindrons Isabelle Labéry en direct des États-Unis en début de ce journal. La justice polonaise refuse de remettre à l'Allemagne un Ukrainien accusé d'avoir participé au sabotage en 2022 du gazoduc Nord Stream en mer Baltique, un plongeur qui a été remis en liberté. Au Pérou, les manifestations ne faiblissent pas face à la violence du crime organisé qui gangrène le pays et en particulier sa capitale, Lima. Le nouveau gouvernement envisage de décréter l'état d'urgence. Pas de revalorisation du régime de retraite complémentaire de l'Argirc-Arco l'an prochain. Les négociations ont capoté cet après-midi. 14 millions d'ex-salariés du privé sont concernés. Le Secours catholique des Grèces, c'est la première fois de l'histoire de cette association caritative. 130 postes devraient être supprimés pour cause de contraintes financières. Les parlementaires se pencheront la semaine prochaine sur le dossier de la Nouvelle-Calédonie avec un report possible des élections provinciales prévues en novembre. Les indépendantistes du FLNKS ne l'entendent pas de cette oreille. Explication de Nicolas Ballu. Le monde de l'élevage en ébullition, toutes les exportations de bovins français sont interdites pendant 15 jours pour cause de dermatose, annonce cet après-midi dans le Jura de la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard. Et dans maintenant une heure, Volodymyr Zelensky sera reçu à la Maison Blanche par Donald Trump. C'est la troisième fois que le président ukrainien rencontre son homologue américain. Il va tenter de le convaincre de lui livrer des missiles Tomahawk, armes de précision qui permettraient à l'Ukraine de frapper la Russie plus en profondeur au moment où Moscou intensifie ses attaques sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Isabelle Labéry, bonsoir.
Bonsoir.
Envoyé spécial de France Culture en direct des États-Unis. Le problème, c'est que Donald Trump a aussi relancé hier soir son dialogue avec Vladimir Poutine, qui lui a expliqué qu'une telle livraison de missiles nuirait considérablement aux perspectives de paix.
Oui, pour le chef du Kremlin, ce serait une provocation totalement contre-productive et le locataire de la Maison-Blanche va sans doute l'écouter. Depuis qu'il a compris, notamment après leur rencontre d'Anchorage cet été, que ces missiles pouvaient être un moyen de pression bien plus efficace sur Vladimir Poutine que n'importe quelle menace de sanction, Donald Trump ne va pas vouloir se délester trop vite de son joker. Un accord d'armement sera donc peut-être signé ce soir dans le bureau ovale avec Volodymyr Zelensky, mais sans doute pas avec les Tomahawk. Donald Trump l'a dit hier, après tous ces missiles, les États-Unis aussi en ont besoin. On ne va pas vider nos stocks. La rencontre devrait malgré tout être apaisée. En août déjà, les deux hommes avaient laissé derrière eux les tensions et les humiliations du mois de février dans le bureau ovale. Ce qui a changé cette fois, c'est que le président américain ne croit plus à la possibilité de réunir à la même table Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine. Ça a été son objectif, ça ne l'est plus. Ça aussi, il l'a dit hier, on va désormais faire autrement, avec des rencontres séparées. Les deux interlocuteurs seront traités sur un pied d'égalité, mais ça, ça reste encore à prouver.
Isabelle Labéry en direct des États-Unis. Notez que Donald Trump a également prévu de rencontrer Vladimir Poutine d'ici deux semaines. Ce devrait être à Budapest. Le président américain a également ajouté dans son agenda et dans deux semaines également une rencontre avec son homologue chinois Xi Jinping pour évoquer le dossier des droits de douane qui frappe la Chine à 100%. En Pologne, la justice a refusé aujourd'hui de remettre à l'Allemagne un Ukrainien soupçonné d'avoir participé au sabotage en 2022 du gazoduc Nord Stream en mer Baltique. La remise en liberté de Volodymyr Jourafliov a été ordonnée. La demande des autorités allemandes ne mérite pas d'être prise en considération. C'est ce qu'a déclaré le juge du tribunal régional de Varsovie au cours d'une audience en présence du suspect. À Varsovie, la correspondance d'Adrien Sarlat.
C'est un verdict aux enjeux politiques et diplomatiques.
Pour commencer, Monsieur Jourafliov, vous êtes libre.
Le professeur de plongée ukrainien attendait la décision de justice depuis plus de deux semaines, mais il est désormais rassuré. Varsovie ne l'extradera finalement pas vers l'Allemagne.
La demande d'extrader Volodymyr Jouraflov vers l'Allemagne ne mérite même pas d'être examinée. L'objet de la procédure ici n'est pas d'établir si le suspect s'est effectivement livré aux activités que l'Allemagne lui reproche, mais plutôt de savoir si ces activités justifient un mandat d'arrêt européen.
Accusé d'avoir plongé à 80 mètres sous la mer Baltique pour faire exploser les gazoducs, il aurait permis de détruire trois quarts des pipelines transportant le gaz naturel russe vers l'Europe. Mais les faits ayant eu lieu sept mois après le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par Moscou, la justice polonaise refuse de voir cette action comme un acte de terrorisme.
Si l'Ukraine et ses forces spéciales ont effectivement lancé une mission armée pour détruire les pipelines de l'ennemi, on ne peut pas qualifier ces activités d'illégales. Elles étaient fondées, rationnelles et justes.
Le ressortissant ukrainien sera donc relâché sans avoir eu à prouver son innocence. Lui n'a jamais cessé de nier son implication dans une quelconque action de sabotage.
Une équipe de 81 secouristes dépêchés par la Turquie pour rechercher des corps dans la bande de Gaza attend toujours le feu vert d'Israël pour rentrer dans le territoire palestinien. L'équipe se tient prête côté égyptien. Sa mission porte sur la recherche de victimes israéliennes comme palestiniennes, selon un des responsables de cette équipe de l'AFAD, l'agence de gestion des catastrophes. Initialement, Israël ne souhaitait pas que des équipes turques mènent des opérations de recherche à Gaza. Compte tenu, a-t-il ajouté, de la proximité d'Ankara avec le mouvement palestinien Hamas. À Madagascar, le colonel Michael Randrianirina a une seconde casquette, celle de président. Il a été investi aujourd'hui, trois jours après la prise de pouvoir par son unité militaire qui a provoqué la fuite de l'ancien président Andry Rajoelina. L'Union européenne appelle à un dialogue entre toutes les parties à Madagascar pour renouer, dit-elle, avec les valeurs démocratiques. Par ailleurs, Air France va reprendre demain la desserte de Lille, une desserte interrompue depuis une semaine en raison des manifestations. Zéro revalorisation pour les retraités du secteur privé. Ils sont 14 millions. Les partenaires sociaux qui pilotent le régime de retraite complémentaire de l'Argic-Arco devaient en discuter aujourd'hui, mais patronat comme syndicat n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Jeanne Serrin, bonsoir.
Bonsoir.
Les pensions des ex-salariés du privé ne bougeront donc pas d'un centime l'an prochain.
Oui, c'est la règle en cas d'échec des négociations et c'est tout simplement la première fois que ça arrive, c'est dire le niveau de polarisation entre partenaires sociaux. Illustration avec la CGT. Le syndicat a été mobilisé ce matin devant le siège de l'Agirc-Arrco à Paris pour réclamer une augmentation de 10% des pensions. Le minimum pour compenser la baisse du pouvoir d'achat des retraités, me disait ce matin Lucien Grimaud, secrétaire général CGT des retraités de la métallurgie.
10%, ça correspond au rattrapage. On est juste simplement sur ce que nous avons perdu à cause de l'inflation. En 5 ans, on a perdu 3 mois de retraite, ce qui est considérable quand on sait que la retraite moyenne, elle est à 1004, 1005 et pour les femmes 900, c'est considérable.
Dans les faits, les partenaires sociaux sont contraints dans leurs négociations par un accord de 2023. Ils fixent une revalorisation annuelle à 0,6% avec une marge de négociation à plus ou moins 0,4%. C'est là que chacun joue ensuite des coudes. Cet après-midi, les organisations syndicales ont poussé pour la revalorisation la plus haute possible à 1%, donc au niveau de l'inflation. Un montant largement supportable pour l'Agirc-Arrco, estiment les syndicats pour qui les réserves actuelles de la caisse complémentaire pourrait absorber 12 mois de versement. Et puis, de l'autre côté de la table des négociations, le MEDEF, lui, a défendu le scénario le plus bas, une revalorisation à 0,2%. Et selon une source proche du dossier, le syndicat patronal n'a rien voulu lâcher, un moyen de faire payer la suspension de la réforme des retraites, estime encore cette source. Ce soir, dans un communiqué, le MEDEF justifie sa position. Cette suspension fait peser une incertitude sur le régime complémentaire, écrit écrit le syndicat patronal. La CGT dénonce de son côté un grand gâchis alors que les complémentaires représentent en moyenne entre 30 et 60% du montant total de la pension des retraités. Une mauvaise nouvelle de plus pour eux, ajoute le syndicat après l'annonce cette semaine des projets de finances du gouvernement qui envisage de mettre à contribution les retraités à hauteur de 5 milliards d'euros.
Jeanne Serrin, merci. À noter qu'au rayon assurance chômage, le Conseil d'État a donné son feu vert au gouvernement pour relancer la négociation. La CFDT et FO avaient saisi la plus haute juridiction pour contester une lettre de cadrage du gouvernement Bayrou demandant aux partenaires sociaux de réaliser jusqu'à 2,5 milliards d'économies par an. Un carnage total pour la CFDT. Ce document reste donc valable mais fixe le 15 novembre comme date butoir pour parvenir à un accord, ce qui paraît compliqué à respecter. Retour à l'étranger et au Pérou, où le nouveau gouvernement de José Herrera veut instaurer l'état d'urgence dans la capitale Lima face à la violence du crime organisé. Une situation qui a entraîné des manifestations massives. Hier, un manifestant a été tué par balle. La police a reconnu sa responsabilité. On rejoint tout de suite en direct de Lima, Amanda Chaparro.
Au cri de « Qu'ils s'en aillent tous », la jeunesse péruvienne se mobilise. Mercredi 15 octobre, ils étaient des milliers à manifester à Lima et dans les grandes villes du pays, rejoints par des artistes, des chauffeurs de bus, des petits commerçants qui sont les premières victimes de la vague d'insécurité. Dans certains quartiers de la capitale, les plaintes pour rackets ont explosé de 900% depuis 2022. Les manifestations de mercredi se sont terminées dans la violence. La police a tué un jeune rappeur de 32 ans. Plusieurs autres personnes ont été gravement blessées. Dans ce contexte, le gouvernement a annoncé jeudi soir vouloir instaurer l'état d'urgence et un possible couvre-feu dans la capitale. Ce n'est pas la première fois que le gouvernement prend une telle mesure. L'ex-présidente Dina Boluarte avait usé cette carte à plusieurs reprises sans aucun résultat. Les jeunes identifient les coupables de cette situation sécuritaire, le Congrès et l'exécutif. Ils sont accusés d'avoir voté des lois dites pro-crime qui fragilisent la lutte contre le crime organisé. Les manifestants dénoncent tout un système corrompu et le pacte des mafias au pouvoir. Rien qu'au Parlement, 70% des députés sont visés par des enquêtes pour corruption. Les jeunes se disent inspirés du Népal qui a fait chuter son gouvernement à la mi-septembre. Ils exigent, eux, la dissolution du Congrès et un nouveau gouvernement de transition pour mener le pays aux élections générales qui auront lieu le 12 avril prochain.
Amanda Chaparro en direct de Lima. Pour la première fois de son histoire, le Secours catholique va faire des croix sur ses emplois. L'association caritative a présenté aux représentants des salariés aujourd'hui un projet de plan social qui prévoit la suppression de 130 postes. Le Secours catholique invoque des contraintes financières et explique que ce plan se fera dans un premier temps sur la base de départs volontaires. L'idée étant de réduire le nombre de postes en CDI de 932 à 802. Explication de Mathieu Bonnour.
C'est la première fois en presque 80 ans d'existence que le Secours catholique doit se séparer d'une partie de ses salariés. Un coup de massue, alors que l'association en déficit structurel a été récemment pointée du doigt par la Cour des comptes. Des réunions du Conseil social et économique s'enchaînent. Encore aujourd'hui, Jean Minet, élu CFE-CGC, participe aux négociations. Il attend plus de soutien du gouvernement.
Un État et des collectivités territoriales qui espèrent que les associations vont financièrement se substituer à leur mission, alors que c'est pas possible. D'accord, il y a la dette, mais après il y a des choix à faire. Si le choix est porté sur la diminution des aides aux associations, ça va être une catastrophe.
À ces baisses d'aides annoncées s'ajoutent aussi de plus en plus de personnes en difficulté à prendre en charge et des dons en berne ces dernières années, comme l'explique Adélaïde Bertrand, directrice générale du Secours catholique.
Le nombre de donateurs en fait ne cesse de baisser. C'est comme ça qu'au cours des 16 dernières années, nous avons accusé 11 exercice déficitaire, tout en prenant quand même des mesures pour réduire fortement les charges.
Elle assure que ce plan de restructuration est la seule solution pour sauver l'association qui s'appuie sur 60 000 bénévoles. La directrice générale appelle aussi à une grande campagne de dons.
Et selon une enquête de la Fédération des acteurs de la solidarité, un quart des associations de solidarité françaises sont menacées de disparition. La Nouvelle-Calédonie revient dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale mercredi prochain. Les députés se pencheront sur le report des élections provinciales, initialement prévues en novembre, un report prévu dans l'accord de Bougival, mais que le FLNKS ne voit pas d'un très bon œil. La principale coalition indépendantiste préférerait qu'on ne touche pas au calendrier. Nicolas Ballu, bonsoir.
Bonsoir.
Hier soir, la Cour d'appel de Paris a autorisé Christian Théin, le président du FLNKS, à rentrer chez lui. Rappelons qu'il a fait un an de détention provisoire à Mulhouse dans le cadre de l'enquête sur les émeutes de mai 2024. Il a été remis en liberté cet été et a donc le feu vert pour retourner en Nouvelle-Calédonie. C'est une décision qui intervient à un moment clé, Nicolas.
Oui, le report des élections provinciales et l'accord de Bougival, le FLNKS est contre et l'a réaffirmé encore aujourd'hui, justement par la voix de son président Christian Théin. Le gouvernement continue au pas de charge pour nous imposer coûte que coûte son calendrier mortifère. Le FLNKS est prêt à discuter, mais pas à n'importe quelle condition. Fin de citation. Christian Théin, toujours à Paris. Il semblerait qu'il resterait un peu de temps dans la capitale, le temps de l'examen du report des élections provinciales par les députés. Depuis plusieurs mois, le leader indépendantiste a eu une activité soutenue, selon Benoît Trépied, anthropologue spécialiste de la question coloniale dans le Pacifique.
Finalement, sa présence contrainte dans l'Hexagone, il en a fait un atout politique, puisque ça lui a permis d'être aux premières loges pour rencontrer les groupes politiques en France, pour écrire aux parlementaires, donc pour faire ce travail politique, puisque en ce moment, le dossier calédonien se joue beaucoup à Paris. Donc finalement, c'était plutôt, de son point de vue, un mal pour un bien.
Enjeu politique du report des élections, encore et toujours le dégel du corps électoral prévu dans l'accord de Bougival. Or, si les élections provinciales avaient bel et bien lieu au 30 novembre prochain, le scrutin resterait gelé, c'est-à-dire réservé aux électeurs établis en Nouvelle-Calédonie avant 1998. Pour Benoît Trépied, ces élections en l'état auraient pourtant deux vertus. Relégitimer des élus dont le mandat n'a pas été renouvelé, or ils ont négocié l'accord de Bougival. Ces élections auraient également un autre avantage.
Quand même un point très important de savoir quel est le poids politique et électoral réel du FNKS et celui de l'UNI vis-à-vis de Bougival. Et cette question se pose aussi en réalité pour l'ensemble des partenaires politiques qui ont négocié Bougival.
À noter que l'UNI dans le camp indépendantiste soutient les accords de Bougival. À l'Assemblée, enfin, le report rassemblerait une courte majorité de députés, les oppositions étant contre ce report.
Nicolas Ballu du service politique de France Culture. Les bovins français assignés à résidence, plus une bête à cornes ne pourra franchir les frontières dans les 15 prochains jours. La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, l'a annoncé lors d'un déplacement dans le Jura. Les éleveurs français font face à la propagation de la dermatose transmise par les piqûres de mouches. La France est le premier exportateur mondial de bovins et cet arrêt provisoire des exportations s'ajoute à d'autres interdictions de type foire aux bestiaux. Édouard Marguier.
Plus de foires, de concours ou de corridas. Tous les rassemblements d'animaux à caractère festif seront interdits dans tout le pays à partir de demain. Et pour un peu plus de deux semaines, jusqu'au 4 novembre, interdiction également d'organiser des marchés de bovins dans les trois régions où il y a eu des cas. L'Auvergne-Rhône-Alpes, la Bourgogne-Franche-Comté et l'Occitanie. Cela s'ajoute aux mesures déjà en place, l'abattage des troupeaux dès la première vache malade, près de 2000 bovins abattus depuis l'apparition de la maladie cet été, et la mise en place d'une zone réglementée autour des exploitations touchées pour vacciner tous les bovins qui s'y trouvent. La ministre de l'Agriculture, en déplacement justement dans le Jura, se montre déterminée.
Il faut bien comprendre que nous sommes dans une stratégie d'éradication. On ne contrôle pas la maladie, on l'éradique.
Annie Genevard précise qu'il y aura plus de contrôle qu'un éleveur qui déplace un animal d'une région concernée par la maladie vers une zone indemne s'expose à 750 euros d'amende, 1500 euros en cas de récidive.
Nous devons être très fermes compte tenu de la gravité du danger qui menace.
Autre mesure d'envergure, la suspension là aussi jusqu'au 4 novembre des exportations de bovins vivants, que ce soit des animaux élevés pour la viande ou des vaches laitières.
Une décision jugée irresponsable par la Fédération nationale bovine. 30 ans de réclusion criminelle, verdict de la cour d'assises du Tarn à l'encontre de Cédric Jubilard, peine conforme aux réquisitions des avocats généraux. Le peintre plaquiste de 38 ans a été reconnu coupable du meurtre de sa femme Delphine. Elle avait disparu de son domicile il y a presque 5 ans. Son corps n'a jamais été retrouvé. La Défense a annoncé son intention de faire appel. Les prévisions météo, encore une belle journée demain. Après dissipation des brouillards matinaux des Hauts-de-France au Grand Est et des nuages bas sur le Sud, le soleil retrouvera ses couleurs un peu partout dans la journée. Côté thermomètre, de 1 à 10 degrés pour les minimales, de 14 à 27 pour les maximales. Il est 18h20.